Personnel et confidentiel, le podcast des femmes et des hommes qui font les RH. Donc, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Personnel et confidentiel, le podcast de l'Association nationale des DRH. Aujourd'hui, on échange avec Marc Dauventuan. Marc Dauventuan, tu es directeur général adjoint chez Crédit Agricole Group Infrastructure Platform et tu es depuis plus de 19 ans maintenant dans le groupe Crédit Agricole. Je te propose que je commence en présentant la structure et puis tu me dis si tu souhaites compléter. Crédit Agricole Infrastructure Platform, c'est une sorte de maison commune qui a été créée en 2019 pour rassembler plusieurs centaines, d'ailleurs même plusieurs milliers maintenant, de collaborateurs issus d'activités de production informatique de différents services du Crédit Agricole. Et c'est une organisation qui est présente aujourd'hui sur 17 sites en France et qui a pour objectif d'accompagner la transformation digitale du groupe en proposant un pôle technologique qui développe des services numériques donc pour le groupe. Est-ce que cette présentation est correcte tout d'abord ?
Tu as très très bien résumé. C'est une maison commune de la production informatique qui regroupe plus de 1600 collaboratrices et collaborateurs sur toute la France pour la prod informatique du groupe Crédit Agricole. C'est ça.
Parfait. Et donc, auparavant, on aura le temps, bien sûr, de revenir sur ton parcours, mais auparavant, tu as été directeur des RH de la transformation et de la communication donc de cette structure pendant plusieurs années, DRH de LCL pour la région Toulouse et Bordeaux, et puis responsable adjoint du recrutement pour le groupe Crédit Agricole SA. Avant de revenir sur ton parcours, je te propose qu'on ait une première séquence qui soit des questions courtes et des réponses courtes. Tu nous dis de manière spontanée ce qui te vient. Si je te demande ce qu'il y a dans ton bureau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans ton bureau ?
Ça te ferait sourire. Dans mon bureau, il se trouve que autour de moi, j'ai à gauche plein de photos de personnages illustres et à droite plein de bouquins. Et c'est simplement parce que actuellement, en mode confiné, je ne suis pas directement dans mon vrai bureau. Je me suis déplacé de Paris en Mayenne et pour des raisons de connexion, je suis chez un couple d'amis qui m'hébergeait pour l'interview. Et lui est photographe professionnel et donc à ma gauche, j'ai le Dalai Lama, j'ai Yasser Arafat, tu vois, c'est un photographe de guerre et de grands reportages. Et à ma droite, j'ai un bureau avec plein d'ouvrages sur l'Égypte parce qu'elle est écrivaine. Et donc, c'est un beau bureau comme on en rêve, en fait, tu sais, quand on a envie d'avoir un petit cocon à soi, un bureau d'écrivain et d'artiste photographe. Donc, c'est un chouette bureau que j'ai à côté de moi.
Un environnement inspirant et rempli de sagesse aussi, j'imagine.
Exactement, exactement. Et donc ça change, tu vois, c'est un des bienfaits du confinement, d'avoir des environnements différents et d'essayer un tout petit peu de se les approprier.
Complètement. On parlait justement d'inspiration à l'instant. Tes sources d'inspiration ou ceux que tu qualifierais de mentors dans ta carrière, à qui tu penses quand on te pose cette question-là ?
Ah, j'en ai eu plusieurs de mentors, un petit peu de rôle modèle, comme on peut dire. Plutôt des anciens managers, ou des managers actuels d'ailleurs, des dirigeants avec qui j'ai pu bosser dans le temps et qui m'ont, à un moment, donné une chance pour me donner une confiance pour prendre des projets. L'ancienne DRH de LCL, l'ancien DRH du groupe Crédit Agricole, et puis des dirigeants qui dirigent différentes filiales dans le groupe dans lequel je suis, qui, par touches successives, je pense, m'ont construit aussi, m'ont donné des idées pour grandir.
Les personnes qui t'ont accompagné dans ton parcours. La question que tu aimes poser en entretien.
C'est quoi ce qui vous branche dans le job ? C'est quoi ce qui vous fait plaisir, qui vous donne envie de vous lever le matin et de venir bosser ?
Efficace et nécessaire. Si tu n'avais pas été RH, tu aurais pu être ou tu aurais voulu être ?
Ah écoute, ce que je vais commencer parce que j'aurais voulu être un grand joueur de rugby international et j'en ai fait pendant plus d'une vingtaine d'années, mais c'est pas du tout allé à ce niveau-là et j'avais pas la capacité de le faire. Donc j'ai abandonné ces ambitions-là avec regret à un moment, mais il fallait se rendre à l'évidence quand même. Il y avait un écart trop fort entre mes aspirations et ma capacité à faire. Et écoute, je pense que on pourra en reparler tout à l'heure dans l'interview, mais j'ai commencé en agence de publicité et je pense que si j'avais pas été DRH, j'aurais pu à un moment continuer en agence de communication et de publicité parce que c'est un élément qui me passionne beaucoup.
Selon toi, que disent tes collaborateurs sur toi?
Ah, écoute, je pense qu'ils disent que je crée du lien et que je fais grandir les personnes. C'est ce qui me caractérise. Une de mes anciennes collaboratrices qui s'amusait à me surnommer le hub parce que j'avais beaucoup de connexions un peu dans tous les sens. Et surtout, j'essaye de les mettre à profit pour les autres. Donc, je connecte les gens.
D'accord. Ce que tu fais pour déconnecter?
Ce que je fais pour déconnecter, écoute, il y a deux exemples. La musique, et là c'est compliqué en période de confinement, mais c'est d'aller au maximum voir des concerts. Moi j'adore ça et j'adore être écouter des gens sur scène, et puis voilà, ça me fait une bonne coupure. Et puis sinon, en famille, j'ai la chance depuis quelques années d'avoir trouvé une petite île en Grèce où on peut aller se ressourcer, couper complètement et on va dire débrancher de la partie boulot. Donc deux exemples de façon de couper. Plus difficile en mode Covid en ce moment.
Oui, j'imagine. Ouais, pour les deux, il faut attendre un petit peu, mais ça reviendra. Ça reviendra. L'application dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui.
Écoute, ça fait le lien avec ce que je t'évoquais tout à l'heure sur la musique. Deezer, je pense que je suis dessus quasiment en permanence pour écouter différents artistes, les différentes sorties. Et puis, plus récemment, les podcasts, comme celui que tu mènes et que tu crées actuellement en lien avec la NDRH et puis tes souhaits RH de valorisation. Alors ça va être par exemple le podcast sur Inter de Léa Salamé sur Femmes Puissantes ou des podcasts plus identitaires de questionnement. Il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui de Kif Taras qui explore un petit peu l'identité de la race, l'identité sexuelle, enfin en tout cas le positionnement des uns et des autres. J'aime bien ce type de podcast, donc c'est ça mes apps du moment.
Oui, ça ouvre l'esprit aussi, ça fait du bien.
Exactement, c'est des points de vue différents, j'aime bien aller chercher ça.
Et ton artiste préféré aujourd'hui?
Il y en a un que j'ai pas mal en tête en ce moment, c'est Feu Chatterton. Et le groupe d'Arthur Teboul qui a sorti, et c'est chouette parce que du coup, ça c'est vraiment une attente en termes de concert à arriver, mais Palais d'Argile, c'est un des titre, album et groupe du moment. Et j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience de les voir en concert.
Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller découvrir Feu Chatterton d'ailleurs. Et si on passe du côté film, est-ce que tu as un film qui sort du lot?
Un film qui sort du lot? Écoute, là, Anaïs, non, j'ai pas un truc qui me vient en tête comme ça directement. Non, je vais... de répondre.
Tu passes ton tour.
Ouais, je passe mon tour. Je suis plutôt série en ce moment, si tu veux, là-dessus.
Et c'est quoi, alors, en termes de série, ce qui te branche bien ces derniers temps?
Alors, j'ai vu quelques séries israéliennes assez amusantes sur Netflix, et puis il y en a une plus classique, mais du moment, c'est Hippocrate, que je viens de boucler là sur la deuxième saison, et qui est une chouette série sur le monde médical et le monde des urgences en particulier. Et qui me touche beaucoup parce que j'ai eu pas mal dans ma famille directe et puis dans ma belle famille des gens qui étaient impliqués dans le monde médical et on se rend compte quand même qu'on laisse un petit peu trop de côté en ce moment. Donc la série est très fine pour montrer ça sans tomber dans les clichés, mais ça montre quand même notre petite problématique en France aujourd'hui sur ce secteur-là.
Sur ce sujet. Et puis, on arrive à la fin de cette séquence. Si tu devais avoir une citation favorite ou un mantra, quelque chose qui te guide dans ta pratique professionnelle ou même dans ta vie de manière plus générale?
Alors, je vais le ramener à la Patrick Pro. Ça va être un mantra test, fail, learn en permanence. Tester sans arrêt, échouer sans arrêt, apprendre très vite et puis corriger.
La méthode agile est aussi passée par là.
Exactement.
Et enfin, dernière question pour cette séquence. As-tu des engagements personnels ou des activités en dehors de ton travail ou des engagements associatifs qui te tiennent à cœur ou que tu as eu par le passé?
Oui, j'en ai deux qui me tiennent assez à cœur et qui touchent en fait un peu le même sujet. C'est l'attention aux autres et l'attention à la diversité. Le premier, c'est d'avoir été très longtemps parrain de l'association Nos quartiers ont du talent, qui permet de faire grandir et d'aider à l'accès à l'emploi à des profils qui sont ultra diplômés mais qui n'ont pas les codes. Donc ça, c'est vraiment de mes grandes causes personnelles. Et puis après, en termes de points de vigilance pour moi, c'est tout ce qui va être touché à la diversité, à l'équilibre femme-homme dans l'entreprise, dans la vie, dans le quotidien. C'est comment on rétablit cette logique d'égalité qui n'existe pas encore quand même sur tous les sujets et dans toutes les phases de la vie perso et de la vie pro.
Donc, deux engagements qui te portent aussi au quotidien. Bah, écoute, je te remercie. On a fini cette première séquence et on va passer à celle qui suit et qui s'intéresse à ton parcours avant de devenir RH. Et ce parcours, il a été finalement très riche. Tu le disais, tu as commencé en agence de publicité. Quel a été ton tout premier job, vraiment le premier emploi que tu as obtenu ?
Tout premier job, c'était en 95. Comme chef de pub, vraiment junior, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de commencer à bosser en agence de publicité et de communication. Je suis rentré dans une agence en région qui s'appelle Apache Conseil et je suis allé vraiment chercher ce job-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de place à l'époque dans cette entreprise-là. Et il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer le directeur général à l'époque, plutôt pour qu'il m'accompagne à trouver des jobs sur Paris, puisque j'étais de la région Rhône-Alpes, mais pour moi, j'idéalisais toutes les agences de pub uniquement à Paris, ce que j'ai fait plus tard. Et à force d'échanger avec lui, au bout d'un moment, je pense que je l'ai un peu énervé à lui poser des questions sur les agences parisiennes. Et il m'a dit, écoute, le plus simple, c'est si tu veux, on commence et tu commences demain.
D'accord. Et cet intérêt pour... Parce que tu es aussi, donc, bien sûr, formé en marketing et en finance. Tu t'es orienté vers cette voie-là au départ. C'était quoi ton intérêt et tes motivations dans ce champ ?
J'avais, je pense, deux intérêts. Le premier, c'était de pouvoir toucher, d'être proche de profils créatifs et de profils qui, à partir d'une idée, d'un brief client, pouvaient trouver une façon d'illustrer les choses et de donner du sens à des équipes et de valoriser des marques. Ça, c'était le premier levier. Et puis après, je pense qu'en deuxième point d'intérêt, c'est une façon pour moi aussi, je ne savais pas forcément trop vers quel secteur je voulais commencer, de découvrir plein de secteurs différents par les clients. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en agence de publicité, c'est-à-dire que je pouvais travailler aussi bien pour des petites marques locales, des grandes marques internationales, travailler des sujets radio, des sujets télé. Tu sais, tu commences une carrière professionnelle et tu ne sais pas forcément vers quoi tu as envie de t'orienter.
Et donc, tu as découvert quel type d'entreprise, quel type de secteur pendant cette première expérience ?
La première communication que j'ai pu faire, et comme je te disais, je suis vraiment rentré par la petite porte là-dessus, c'était j'ai commencé à travailler du packaging d'alimentation pour chiens. Donc, c'était quand même pas forcément ce qui m'animait au départ. Par contre, j'ai pu ouvrir plein de secteurs, des marques régionales, d'agroalimentaire, des marques aussi qui travaillaient en B2B sur l'informatique, de la grande distribution. J'ai beaucoup travaillé sur les magasins Sherpa, le groupe Carrefour. Et puis ensuite, au fur et à mesure, quand on commence à avoir un peu d'expérience et un peu plus de compétences et aussi de renommée sur les sujets, on m'a confié des budgets plus larges. Et j'ai ensuite pu bifurquer vers une seconde agence qui était une agence américaine, McCann Erickson, à Paris pour m'occuper du budget de Coca-Cola.
D'accord, donc là, cette fois-là, tu arrives à Paris. Est-ce que c'était comme tu l'avais imaginé au départ, avec des étoiles dans les yeux, ou qu'est-ce qui relevait du fantasme quand on n'est pas à Paris, et puis qu'est-ce qui s'est révélé vrai dans ces nouvelles agences-là quand tu as bougé ensuite de région ?
Écoute, c'était non, je pense que j'ai retrouvé la part un petit peu de fantasme qu'on peut avoir à cette époque-là, quand on est aussi, quand on débute sa carrière. Je me suis bien retrouvé, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des créatifs qui étaient bien encore plus riches d'expérience, des budgets plus larges, quand vous êtes en agence de communication, vous travaillez des gros budgets type Coca ou L'Oréal. Et moi, tu vois, dans ma carrière, j'ai toujours bien aimé pouvoir tester des choses à petit niveau et ensuite leur donner un élan plus large. Et je me suis assez vite retrouvé quand on gère les campagnes de communication de Coca, très vite, tu vois, c'est des campagnes qui touchent beaucoup de médias, avec beaucoup de moyens aussi pour faire. Et non, je me suis assez bien retrouvé. Après, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir, intégrer Yahoo, ensuite sur Paris, à son lancement dans la filiale française. Et puis ensuite, j'ai par connaissance, par intérêt sur d'autres sujets, par contact de différents dirigeants qui sont passés d'un monde à l'autre. J'ai fait le choix après de rentrer au Crédit Agricole dans un groupe très large, pareil, que je ne connaissais pas, sur lequel je n'avais pas d'historique bancaire, mais qui à un moment venait chercher des profils comme les miens.
Donc c'est justement ce que j'allais te demander, pourquoi ce changement d'entreprise, pourquoi ce passage au sein du Crédit Agricole ? L'idée c'était de d'aller chercher des personnes qui étaient passées par tout ce qui était com, agence de publicité, et c'était ça les profils recherchés.
Sur la partie nouvelles technologies, je suis rentré au sein du groupe, comme tu le disais, il y a maintenant quasiment 20 ans. C'était à un moment où le groupe Créa des Récoltes déployait des équipes. Ils avaient besoin de profils qui étaient passés par les nouvelles technologies et par la communication. Donc c'est en suivant aussi certains dirigeants avec qui j'avais bossé dans le temps, qui avaient rejoint le groupe, ils sont venus me chercher. Donc j'ai ouvert cette aventure-là. Et je ne pouvais pas trop imaginer, je t'avoue, à l'époque, la largeur des carrières qu'il pouvait y avoir dans un groupe comme celui-ci.
Oui, parce que du coup, tu es donc recruté en tant que responsable marketing et communication digitale. Ensuite, tu deviens responsable des offres, placements et assurances. Et ensuite, tu bascules en tant que responsable recrutement. Donc, pour le groupe Crédit Agricole, ce basculement vers la fonction RH, vers des fonctions de recrutement, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu?
Eh bien, écoute, ça s'est passé pas mal par chance, je vais le dire comme ça, mais... Ça peut illustrer aussi par rapport au podcast et puis aux échanges qu'on peut avoir avec des jeunes qui souhaitent rentrer dans la fonction RH. Je pense que ça a mêlé deux choses en disant, tiens, je viens de la com, je viens du marketing, la partie ressources humaines m'intéresse, je ne suis pas formé à ça, mais j'ai envie de pouvoir évoluer dans cette sphère-là. Donc, c'est moi qui suis allé chercher ça. Et en même temps, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir une dirigeante qui m'a fait confiance, qui m'accompagnait dans des programmes internes de formation, tu sais, de détection des talents, et qui s'est dit, tiens, là, il y a quelqu'un qui a envie de basculer, de creuser des choses en ressources humaines. Et elle était issue de position RH et elle avait besoin d'un adjoint. Et donc, elle est venue me chercher. Puis, des postes qui, à un moment, existaient. Et j'avais travaillé pour elle dans un sujet de réflexion plus large sur l'expatriation. Et à un moment, le switch s'est fait là-dessus. Et moi, ce que je venais chercher là-dessus, c'est je me rendais bien compte que la dimension humaine dans une entreprise et dans un groupe qui est particulier, qui a ses valeurs, qui a aussi son assise, était très importante et qui avait moyen d'influer et de jouer sur des choix d'entreprise différents en travaillant cette dynamique-là. C'est comme ça que j'ai commencé. Et alors, je pense que derrière aussi, il y avait un petit sujet, c'est qu'à l'époque, le groupe Crédit Agricole essayait de redéfinir sa politique de recrutement et son image employeur. Et venant du marketing, j'avais aussi, je pense, certaines compétences qui intéressaient les dirigeants de l'époque.
Pouvoir ouais, justement apporter tout ça aussi il y a une vingtaine, enfin, il y a 15 ans maintenant dans la fonction RH. Avant de la rejoindre, cette fonction RH, comment tu la voyais? Quelle était ta perception de cette fonction?
Écoute, je la voyais avec beaucoup de méconnaissance. Tu sais, c'est aussi une des difficultés de notre métier côté RH, c'est de ne pas forcément bien communiquer sur la largeur de ce que l'on fait au quotidien. Et donc, je la voyais de façon parcellaire, fonction des gestionnaires RH que j'avais pu rencontrer. Mais je me disais que justement, en fait, il y avait sûrement quelque chose à gratter et à peut-être pousser différemment. Je la voyais par les biais qu'on peut avoir quand on est simplement collaborateur. Et du coup, le contact qu'on peut avoir avec des équipes formation, paye, un peu recrutement et mobilité. Donc avec les plus et les moins, suivant les personnes qui dirigent ces fonctions-là. Mais je n'avais pas une vue complète, une vue aussi large de ce que ça revêt aujourd'hui.
Tu es devenu donc DRH de donc Crédit Agricole Technologies et Services par la suite. Comment tu deviens DRH et quel était le projet pour lequel tu as été recruté et nommé à ce poste-là?
Alors écoute, dans le groupe Crédit Agricole, pour être sur des fonctions de dirigeant, il y a tout un programme de formation et d'assessment interne assez sélectif. Et la fonction RH, elle est très encadrée pour être sûr d'avoir les bons profils et le bon niveau de compétences. Donc, c'est très exigeant dans un groupe comme le Crédit Agricole, mais c'est assez normal hein, par rapport à la taille de la structure. Mais il faut avoir ça en tête. Et donc, j'ai fait ce parcours-là de sélection, d'identification et ensuite de formation. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné sur ce poste de DRH. Et je suis rentré dans cette structure qui est du coup mon poste précédent et la filiale précédente, c'est la technologie et services, dans l'objet de travailler la transformation complète et totale de cette entreprise. Je t'avoue que quand j'ai rejoint cette entreprise-là, il n'y avait pas forcément autant de largeur de transformation. Ensuite, les dirigeants ont bougé. Et l'idée de fond, ça a été de transformer, de passer une structure à 100% en mode agile. Ce qu'on n'avait jamais fait en France, c'est ce qu'on n'avait globalement jamais fait à cette taille-là, puisque c'est plus de 1500 personnes en Europe.
Cette transformation, elle a été, comme tu l'as dit, digitale et même culturelle de vraiment passer en mode agile. Ce qui est intéressant, pardon, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que même la fonction RH y est passée, si je ne me trompe pas. Et comment ça s'est organisé finalement ce passage et cet intérêt du mode agile, même pour la fonction RH?
Et ça, c'est une vraie révolution, en fait, c'est de commencer par soi. Tu sais, tout à l'heure, quand tu me demandais le mantra, quand je disais le test and learn, et puis du coup, de fixer très vite les choses, on s'est dit quoi? On s'est dit qu'il fallait transformer totalement une entreprise, et sur toutes ses fonctions, dont les fonctions support, régaliennes, pour donner le là. Et en fait, on a travaillé deux choses en parallèle. Le fait de travailler des programmes de formation très complets sur l'agile. C'est pas évident, c'est une boîte informatique, et de passer à l'agile quand vous l'avez jamais fait, doit s'accompagner. Et le réflexe qu'on a eu, et on s'est dit, on peut pas le faire en étant à côté d'eux. Il faut que nous-mêmes, on s'applique les méthodes qu'on va proposer à l'ensemble des collaborateurs. Et ce qui fait que les programmes de formation, eh bien, les équipes RH, moi, je leur ai demandé de les suivre, d'en être les premiers testeurs, de se les appliquer dans la façon dont gérer nos projets, et ensuite de pouvoir le promouvoir et le valoriser au sein de la structure. C'est plus important, tu vois, de se dire, c'est ceux qui font qui savent. Et si tu veux être exemplaire, à la fois en tant que dirigeant, en tant que DRH, mais aussi sur les fonctions RH, eh ben, il vaut mieux s'appliquer déjà à soi-même les principes qu'on essaie de promouvoir à l'entreprise. Et donc, il a fallu connaître les éléments, se l'appliquer, gérer nos projets de cette façon-là, et en même temps, de paralléliser les choses et d'accompagner l'entreprise dans son développement agile.
Qu'est-ce que ça change au quotidien de finalement faire ces projets RH en méthode agile concrètement? Qu'est-ce que ça a changé pour le service?
Alors, une vraie évolution, une vraie révolution même. Le fait de mettre toujours le client, c'est-à-dire le collaborateur, au centre, tout le temps. Et donc, par exemple, tu développes des programmes, que ce soit des programmes d'intégration de nouveaux collaborateurs, des programmes de formation, des programmes plus orientés paye et évolution de rémunération. Tu les travailles dès le départ avec ton client final, qui est ta collaboratrice ou collaborateur, dans tes groupes de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu t'organises pour le faire en mode sprint. C'est une des logiques de l'agile, c'est-à-dire que tu évites des grands projets complets qui vont apporter de la valeur, mais très tard. Et tu te concentres sur apporter de la valeur, du coup de la valeur RH, la valeur humaine, le plus rapidement possible. Et le troisième point, c'est que tu fais évoluer tes process en permanence. Je te l'illustre, les programmes de formation, par exemple, plutôt que de les imaginer en chambre et ensuite de les déployer, et puis au bout d'un an ou deux, tu vois, de les faire évoluer comme c'est l'élément classique, eh bien, dès que tu les mets en place, dans tes groupes qui vont être formés, tu ajustes et tu prends en compte tout de suite les retours pour faire bouger les programmes. Ça, c'est une vraie richesse, de mettre les programmes de formation eux-mêmes en agile. C'est-à-dire que d'une session à l'autre, les programmes évoluaient et tu prenais en compte ce principe d'itération récurrente nativement dans ton programme de formation. Trois illustrations pour te montrer comment tu peux faire bouger les choses sur des fonctions RH.
Ouais, et tu le disais, cette transformation, elle était vraiment à l'échelle de toute l'entreprise. L'enjeu, si je ne me trompe pas, c'était aussi de recruter plus vite et de recruter plus dans un temps assez contraint. Comment du coup, tu as relevé ce défi avec les équipes de ton service pour permettre de recruter plus et puis de vraiment se digitaliser et de se moderniser? Comment ça s'est passé?
Eh bien, écoute, déjà avec beaucoup d'humilité, parce que tu sais, la structure avant, elle recrutait à peu près 50 personnes par an et elle est passée maintenant à 300 personnes par an. Et donc, on s'est lancé et on a appliqué, on a testé beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire accepter beaucoup d'échecs dans ces tests-là pour corriger très vite. Et ça rejoint un principe que je t'évoquais en amont. Et après, on a essayé d'industrialiser les choses de façon à se focaliser sur deux éléments. Le temps de recrutement. Quand tu recrutes sur l'IT, tu sais, quelqu'un qui postule et qui est un développeur Java, par exemple, à Paris, il postule et au bout de 4 jours, il a déjà une dizaine d'offres. Et donc, si tu arrives le 5e jour, ça ne sert à rien puisqu'il a déjà presque signé son contrat ailleurs. Et donc, c'est de changer complètement et de raccourcir le process de recrutement en étant très focalisé sur le temps de recrutement et la simplification de ce temps de recrutement. Concrètement, par exemple, d'avoir en même temps des RH et des opérationnels qui avaient dans leur propre agenda la capacité de prendre des recrutements à la volée, de recruter pour les autres quand tu es opérationnel, et on a créé un pool de recruteurs dédiés pour l'ensemble de l'entreprise. Et ensuite, le deuxième point de vigilance, c'était l'expérience candidat. de toujours, toujours avoir des analyses et des retours de feedback réguliers de la façon dont ils avaient vécu le recrutement, qu'ils soient recrutés ou non, pour à chaque fois s'améliorer et attirer les meilleurs et en tout cas favoriser la qualité d'intégration dès les premiers instants et dès les premiers échanges avec le candidat qui devient ensuite ton collaborateur.
Et c'est vrai que tout ce projet de transformation numérique a été vraiment reconnu par tes collègues RH au-delà de ton entreprise, puisque tu as reçu le prix du DRH numérique 2020 de la NDRH. Comment tu l'as vécu et comment quel impact ça a pu avoir peut-être aussi en interne, ce prix décerné par l'association ?
Écoute, c'est une très très grande fierté pour toutes les équipes. Et c'est vraiment là, c'est un prix collectif, si tu veux. Moi, j'ai la chance d'être là au moment où il y a ce projet-là pour le mener, mais c'est un prix qui récompense le job et l'investissement à la fois d'équipes RH, mais aussi de dirigeants qui ont accompagné ce sujet-là, qui nous ont donné les moyens. Donc, c'est une vraie reconnaissance sur le marché et ça fait grandir tout le monde d'un coup. Et c'est une façon, à la fois, tu sais, quand tu mènes ce type de projet de transformation, tu mesures beaucoup l'engagement des équipes et la façon dont cet engagement des collaborateurs évolue. Et il a eu la chance de fortement évoluer petit à petit en le construisant. Et d'avoir en plus une reconnaissance de tes pairs sur le marché, ben, ça donne un coup de boost et ça donne envie, je pense, aux équipes d'aller plus loin et de continuer à tester des choses. Dans un groupe comme le Crédit Agricole, ça donne aussi un élément d'autorisation à dépasser peut-être certains sujets, tu vois, certains périmètres, à s'autoriser à tester des choses. Et moi, en tant que dirigeant, bah, c'était une vraie reconnaissance pour les équipes et leur implication au quotidien pour ne pas lâcher des sujets aussi complexes, aussi difficiles quand tu es un petit peu les premiers à tester des nouveautés, des approches agiles, des approches culturelles différentes, des simplifications de process, tu vois. Donc, c'est un vrai retour, en tout cas valorisant pour les équipes qui ont bossé sur les sujets, quelles qu'elles soient. Et c'est surtout, je pense, très valorisant plus largement pour les collaborateurs d'une entreprise qui eux-mêmes se sont aussi lancés dans ce type de transformation.
Et puis tu le disais finalement, je ne sais pas si tu te considères comme ça, mais tu as aussi une figure de pionnier dans le sens où tu aimes beaucoup tester. Et puis, comme tu le dis, il faut parfois arriver à convaincre ou en tout cas aller de l'avant, même s'il y a des obstacles. Comment tu accompagnes, en tout cas, quels conseils tu donnerais à des professionnels RH qui souhaitent impulser ces changements-là, qui n'ont pas forcément toujours le soutien à tous les échelons? Comment on lance de tels projets? Comment on commence finalement pour impulser ce type de changement dans des organisations?
Écoute, ça commence avec, je pense, beaucoup d'alignement avec la direction générale. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, on a eu la chance d'avoir des dirigeants qui donnaient une vision de transformation et qui donnait à la fois une cible, mais aussi une orientation sur le chemin à prendre. Quand tu es en transfo digital, le chemin que tu prends, il est presque aussi important et même il est plus important que la cible à atteindre. Et donc, mentalement, dans la façon d'aborder des sujets, déjà, ça demande de faire le pas de côté. Et après, alors, très franchement, avec beaucoup d'humilité là-dessus, sur les conseils que je peux donner, c'est à chaque fois de vérifier cet alignement de vision et d'aller chercher des feedbacks pour les fonctions RH, aussi bien en interne auprès des collaborateurs pour voir si ton écosystème d'entreprise te suit, a compris les messages, et auprès des dirigeants. Et puis après, le deuxième exemple, c'est vraiment sans arrêt de tester des choses et de faire aussi confiance à des profils qui, au départ, ne sont pas forcément les hiérarchiques qui mènent les sujets, mais il y a toujours dans l'entreprise plein de talents de partout. Et donc, d'oser de donner les clés du camion sur certains sujets à des talents qui ont levé la main, qui ont envie d'eux, qui sont proactifs, et les autoriser à se planter. Pour moi, le plus important, c'est ça. Et donc, ça veut dire que sur la fonction RH, comme sur les autres fonctions d'ailleurs, mais il faut vraiment s'autoriser à faire des erreurs, à les admettre et à être en amélioration continue. C'est là où tu peux faire la différence. Et puis, c'est là, moi, je t'avoue, je prends beaucoup de plaisir à la fois à tirer des projets et puis à pousser des équipes à se dépasser. Tant que tu mets dès le départ le droit à l'erreur comme une des composantes natives de tes projets, inclus dès le départ dans ton projet. C'est ça le conseil que je pourrais donner.
Oui, d'avoir aussi ce changement culturel qui se fait de passer à un droit à l'erreur acquis dans les projets qu'on lance. Et l'un des autres outils projets que tu as lancé dans cette structure et dont tu parlais aussi au début de cet échange, c'est la question de l'égalité femmes-hommes et des très bons résultats que vous avez eus à l'index égalité femmes-hommes. Quel regard tu portes voilà, sur cet engagement que tu as et comment on s'engage sur le sujet, notamment dans une structure informatique où on sait que c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'ailleurs sur ce sujet.
Il faut, pour moi, pas lâcher le sujet et vraiment en faire un élément que tu pilotes dans la durée, quel que soit le point de départ de l'entreprise sur ce sujet-là. On a eu la chance sur la filiale où j'étais précédemment d'atteindre 2 années de suite l'index à 100 sur 100. Et ça, c'était le résultat du travail des équipes précédentes qui n'avaient pas lâché le sujet. Et tu vois, aujourd'hui, en tant que DGA chez Cagip, on n'est pas à ce niveau-là d'index, mais on a des équipes ultra motivées, comme le sont celles du groupe Crédit Agricole, pour faire mouvement. Et pour moi, si on prend cet exemple-là, être demain à un index 100 sur 100, ce n'est pas tant un objectif en soi, parce qu'on va se dire comme ça, ça devrait être juste naturel dans toutes les structures. C'est une représentativité, je dirais, de base, et on devrait partir de là. Alors après, on peut être à 95, à 90, ça montre en tout cas le mouvement, c'est pas le 100 qui est le plus important. Par contre, d'inscrire ça comme un élément de valeur, mais je dirais de principe et de base, c'est ça le plus important. Et donc après, au-delà de l'index, c'est quelle place tu donnes aux femmes dans une structure, quelle place tu donnes dans les carrières des profils féminins. Comment, et encore c'est encore plus dur dans l'IT, tu attires des profils féminins sur les métiers, puisque nous, on cumule IT et banque, et donc il faut être doublement plus attractif. Comment tu intègres bien le rôle de la femme dans les modèles. Tu sais, par exemple, je te l'illustre, dans l'IT, il y a des grands mouvements en ce moment sur l'intelligence artificielle. Bien, c'est juste pas du tout la même chose d'avoir des femmes qui travaillent sur ces programmes-là, parce que ce que tu induis, si tu manques de femmes dans ces programmes et ces projets-là, c'est des visions très masculines et l'intelligence artificielle, elle peut développer aussi avec beaucoup de biais ces sujets-là. Donc, c'est avoir une vue très large et de fond au Crédit Agricole. Le fondement, c'est de se dire, on doit représenter nos clients et la société aujourd'hui, eh bien, elle doit être paritaire au maximum, au bon sens du terme. Et donc, c'est comment tu fais en sorte que ta propre entreprise, elle le soit aussi, parce que c'est comme ça que tu représentes bien tes clients.
Et finalement, donc tous ces projets, alors ça a été très riche ce que tu as fait dans cette structure, récompensé donc par un prix de la NDRH. Et ensuite, tu es devenu DGA, passé du rôle de DRH à un rôle de DGA. Qu'est-ce que ça change?
Ça permet de prendre plus de hauteur sur les sujets et ça veut dire qu'il faut aussi en laisser aux équipes et aux différents directeur que tu manages demain. Et moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est d'avoir encore plus d'impact sur une entreprise et puis plus globalement sur la société. Donc là, tu questionnes le rôle du dirigeant au sens large. C'est comment tu fais en sorte d'apporter et d'avoir plus d'impact et de poids sur les décisions de l'entreprise. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en conservant après mes valeurs, la façon d'exercer les choses et surtout en respectant la façon dont chaque directeur souhaite ensuite driver ses projets. Donc c'est un petit, tu vois, un pas de côté pour prendre plus de hauteur et plus de stratégie, plus d'appui aussi et d'intervention de politique d'entreprise pour le travailler encore plus sur le long terme et donner au maximum aux directeurs qui font partie de la direction générale adjointe et de l'entreprise, de l'autonomie, de la responsabilité. Tu vois, c'est essayer d'appliquer ce que moi j'ai eu la chance d'avoir de mes dirigeants précédents dans la façon de manager. Donc, c'est de concilier les choses. Puis après, je t'avoue que c'est très récent, hein, ça fait à peu près 6 mois. Donc, je découvre aussi ce métier-là et cette fonction-là. Donc, j'apprends tous les jours.
Est-ce que tu as découvert en rejoignant cette fonction et les conseils aussi, c'est ça aussi l'objectif de ce podcast, que tu pourrais donner à des professionnels RH qui sont intéressés par ce type de fonction, comment on s'y prépare, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de les rejoindre, ces fonctions de direction qui sont un petit peu différentes finalement des fonctions RH classiques?
Je pense que la fonction, tu vois, RH et les fonctions RH préparent bien à ces fonctions de dirigeant plus large, parce qu'elle, quand tu es en RH, tu as la capacité de t'ouvrir à la structure, de voir son mode de fonctionnement, d'essayer d'être au contact aussi de dirigeants. Donc, moi, les conseils que je pourrais donner pour tous les profils qui ont à un moment envie d'évoluer sur des fonctions de dirigeant, c'est de profiter de la fonction RH pour être au contact des clients de l'entreprise, des clients internes qui sont les collaborateurs et les collaboratrices, pour apprendre, emmagasiner de l'expérience, et puis d'être au maximum au contact des dirigeants pour voir la façon dont eux drivent une entreprise, comment ils prennent des choix, comment en tant qu'individu, avant d'être dirigeant, ils travaillent les sujets en profondeur. Et là, quand on est RH, on a un peu le droit plus facilement de questionner des dirigeants, puisque ça fait partie de notre modèle d'évolution, d'accompagnement de carrière, par exemple, quand on a des talents. Et donc, profiter de ces moments-là pour aller les questionner. Et moi, c'est un peu comme ça que je me suis construit, que ça m'a donné envie d'être dirigeant ensuite sur d'autres fonctions dans le groupe Crédit Agricole. C'est de voir comment chacun se déplaçait, quels étaient leurs mantras, c'était quoi leurs aspirations et quel plaisir aussi ils retrouvaient dans ce job-là. Et à partir de là, je me dis, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie d'exercer parce que j'aurai encore plus d'impact demain en le faisant. Donc, quand on est RH, on a cette chance de pouvoir avoir un livre ouvert souvent sur l'entreprise, sur les dirigeants. Il faut vraiment en profiter. Il faut questionner, puis il faut lever la main. Si on a envie de grandir, eh bien, il faut surtout le faire savoir. Je pense qu'il y a beaucoup dans des carrières des choses qui se construisent par contact, par échange, par opportunité. Il faut être souvent là au bon moment, mais aussi, faut faire savoir l'envie qu'on a de se déplacer sur d'autres sujets et tester des choses. Et moi, il est fort probable, tu sais, qu'au-delà de la fonction de dirigeant, je revienne ensuite sur des fonctions peut-être de dirigeant RH, parce que c'est une dynamique que j'aime bien, après être allé tester d'autres fonctions de direction sur des filiales, sur d'orientation client, sur d'autres métiers. Ça fait partie d'une boucle, il ne faut pas avoir forcément des préconçus sur une seule trajectoire.
Ça peut être aussi des échanges, des allers-retours.
Exactement.
Entre plusieurs domaines. On a balayé donc toute ta carrière qui est très riche. Si tu devais nous partager ta plus grande fierté professionnelle, que ce soit en termes de projet, en termes de réussite ou pas, ou autre chose, qu'est-ce que ce serait ?
Écoute, c'est souvent... moi, ma fierté, c'est de faire grandir les gens. Quand je dis ça, c'est pas moi tout seul. Hein, les gens, ils grandissent tout seuls, mais c'est de pouvoir donner le petit coup d'accélérateur ou permettre à des profils qui ont du potentiel d'en avoir conscience et de s'autoriser à faire autre chose. Et tu vois, alors, évidemment, peut-être que ma réponse serait différente dans un autre moment, dans une autre période, mais dans une de mes grandes satisfactions récentes, c'est que j'avais une assistante de direction qui avait énormément de potentiel et qui en a encore beaucoup, et de l'avoir pu l'amener sur d'autres fonctions. Aujourd'hui, elle exerce sur des projets de formation et elle est sortie de sa zone de confort parce qu'elle a vu qu'il était capable et qu'on pouvait lui faire confiance sur d'autres sujets. Donc, mes satisfactions, en fait, ça a toujours été ça. C'est de faire grandir des profils, d'aller choisir et sélectionner, détecter des talents qui ne sont pas forcément connus. Et ça a été le cas dans les différentes expériences et encore plus aujourd'hui chez Cagip et dans le groupe Crédit Agricole. C'est ça, moi, ce qui m'anime au quotidien.
Et à l'inverse, si tu as beaucoup parlé d'ailleurs de tout ce qui était testé, parfois échoué, apprendre très vite, est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tirés, des échecs ou en tout cas des choses que tu ferais différemment aujourd'hui dans ta carrière, dans tes projets, quelque chose où tu te dis, tiens, si c'était à refaire, je pense que je ne le ferais pas exactement comme ça.
Oui, il y en a plein, il y en a plein. Je peux te l'illustrer, c'est quand justement qu'il y a un échec, peut-être au début de ma carrière, de ne pas avoir eu le réflexe de faire savoir que c'était un échec. Et surtout, en fait, quand je dis ça, de ne pas en faire profiter aux autres pour pas qu'ils refassent la même erreur ou les mêmes échecs. Souvent, quand tu débutes dans ta carrière, tu as une logique protectrice ou peut-être que les managers ne t'autorisent pas non plus à avoir cette zone-là d'échec. Et du coup, tu le gardes pour toi et tu sais, tu le mets vite de côté. Et c'est ça, quand je prends le regard un peu et le recul, c'est de ne pas avoir été assez ouvert à l'époque pour très vite le dire et en faire partager aux autres, et tout le monde gagne du temps là-dessus. Et ça, ça fait le lien avec la structure de l'ANDRH par rapport à cela, et je fais un lien là-dessus. C'est une vraie richesse d'avoir une association des DRH où tu peux partager aussi bien des succès que des échecs sans être jugé par les pairs, et tu fais gagner du temps à tout le monde. Et dans les fonctions RH, il y a une vraie richesse parce que chacun expérimente, tu vois, dans les entreprises, dans les collectivités, testent plein de choses. Et la qualité de ce type d'association, et moi je m'y retrouve à 200%, c'est que tu es avec des pairs sans jugement et tu peux sans arrêt partager des sujets et apprendre beaucoup plus vite et gagner un temps fou dans des choses qui ont été développées ailleurs. Et c'est ça, j'aurais aimé en tout cas, par rapport à ta question, être capable de le faire plus tôt.
Ne pas avoir peur en tout cas de partager quand ça ne fonctionne pas très bien, de manière générale. Et ben on arrive sur la dernière séquence de ce podcast qui est destinée plutôt à de l'ouverture et de la prospective. D'après toi, quel est le rôle? Alors, en plus, cette fonction RH, elle est particulièrement bousculée avec la crise qu'on traverse. Quel est le rôle et la mission de la fonction RH aujourd'hui dans les organisations?
Je pense qu'elle a beaucoup évolué et qu'on a une chance, c'est que malgré toutes les difficultés qui sont très profondes de la crise du Covid, ça a mis en avant le rôle essentiel de la fonction RH. Ça l'a non seulement renforcé, installé, mais ça a montré qu'on pouvait là être au cœur des sujets de l'entreprise et qu'il fallait s'appuyer sur la fonction RH telle qu'elle existait, mais telle qu'elle allait devenir demain. Et donc, par rapport à ta question, pour moi, je pense que la fonction RH, elle doit encore grandir pour permettre à chaque collaborateur de travailler la responsabilité, de se dire dans un monde qui évolue à la fois vers un monde où il y a beaucoup plus de normes, tu vois, d'autorégulation sur les sujets, et puis un monde beaucoup plus complexe. Le vrai sujet, c'est comment tu donnes plus de responsabilité au terrain, aux collaborateurs, à chacun. Parce qu'ensuite, tu as une variété de situations, et si tu permets au collaborateur de décider lui-même avec empathie, discernement et avec beaucoup de confiance, les entreprises, elles pourront grandir et accélérer et notamment davantage encore se sortir de ce type de crise-là. Et c'est là où la fonction RH, elle a un rôle d'accélérateur. C'est là où, pour moi, elle doit petit à petit, elle évolue énormément. On le voit en France, tous les collègues qui assument ces fonctions de RH, qui ont aussi grandi pendant la crise, mais qui maintenant permettent de se déplacer sur des sujets différents et notamment des sujets sociétaux. Moi, c'est ça la grande évolution, en tout cas, que je vois de la fonction, sur une fonction qui est difficile, mais qui est maintenant plus reconnu et encore plus pris sa place.
Oui, qui finalement aussi est reconnue à sa juste valeur. Tu l'évoquais, elle bouge énormément et elle évolue constamment. Quels enjeux RH, toi, tu vois émerger dans les prochaines années? Des sujets, tu parlais d'enjeux sociétaux, mais de manière plus générale, est-ce que tu vois des grandes thématiques qui vont être vraiment incontournables là, pour la fonction RH pour les années qui viennent?
La capacité à responsabiliser davantage les collaborateurs. On le voit dans toutes les entreprises, notamment avec le travail à distance, que les collaborateurs sont restés impliqués et ont su déployer leurs sujets, leurs projets, sans forcément avoir le même lien avec la hiérarchie qu'avant. Et donc, c'est comment on bascule sur des approches de management différentes qui vont davantage reposer sur la délégation et la confiance. Ça, c'est un des vrais sujets. Après, il y a tous les sujets RSE sur lesquels la RH doit prendre toute sa place et doit driver ces sujets-là dans les entreprises pour travailler les éléments de diversité, d'égalité, d'impact sociétaux, d'impact environnementaux. Je pense qu'on a un boulevard en RH là-dessus. C'est une vraie chance, c'est une passion là-dessus des fonctions RH de pouvoir prendre ces sujets-là et les tirer pour le reste de l'entreprise parce que l'entreprise tire une part de la société. Et si on voit la RH comme une fonction qui a un impact auprès des collaborateurs, mais aussi qui a un impact sociétal, on a un champ de possible assez fantastique. Après, il faut convaincre les dirigeants sur ces sujets-là. Et c'est là où le Covid a eu le mérite de replacer la fonction RH au centre, proche d'un binôme avec le DG. Donc, profitons-en pour tous les jeunes qui veulent aller sur les fonctions RH. Je pense qu'il y a un boulevard parce qu'il y a des nouveaux métiers à inventer en permanence et il y a des sujets à challenger en permanence. Et c'est une richesse d'être dans cette époque-là et dans ce temps-là.
Et pour ton avenir à toi, là on a parlé de l'avenir de la fonction, mais le tien d'avenir, qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années et pour la suite de ton parcours?
Écoute, ça va être déjà de réussir la fonction que je viens de rejoindre. Mmh. Elle est récente et donc il faut que je m'y installe, j'y trouve les codes. Et réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, en l'occurrence Cagip, qui est en pleine transformation, elle puisse servir le groupe Crédit Agricole en assurant le maximum de sécurité sur ses projets informatiques, le maximum d'innovation pour que les clients retrouvent à la fois de l'humain, c'est une des valeurs au Crédit Agricole, dans le contact et aussi les outils digitaux les plus pointus du marché quand vous êtes numéro un du marché, c'est ce qu'on doit faire. Et donc ça, c'est cette transformation-là qui est en marche. Et donc, c'est déjà de réussir cela. Et j'aurais au moins, à ce titre-là, réussi ma fonction et accompagner les équipes à le faire et à être le plus engagé possible pour le faire. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Après la suite, tu sais, j'ai la chance d'être dans un groupe qui permet d'aller là aussi tester en termes de carrière différentes orientations, différents sujets qui ouvrent à l'international, qui ouvrent à des parcours différents en France et sur le territoire. Et si j'ai réussi ce poste-là, et ça on le verra que dans quelques années, mon souhait c'est demain de pouvoir travailler sur des territoires en France ou à l'étranger à leur propre développement. Et c'est là où, tu sais, quand tu es sur un job, tu cherches souvent un peu un alignement personnel. Et moi, je m'y retrouve aujourd'hui dans ce groupe-là parce que je suis aligné avec mes valeurs et ce que l'on permet de faire au quotidien. Et demain, j'aimerais l'exercer ailleurs, mais on va le faire par étapes déjà. Et déjà, c'est de réussir le poste que je viens de prendre et l'entreprise que je viens de rejoindre.
Oui, complètement, pas à pas. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à destination des jeunes professionnels et des moins jeunes professionnels d'ailleurs qui nous écoutent, ou quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise sur quand tu as commencé ta carrière?
Eh bien, écoute, c'est même ce qu'on m'a dit, et c'est pour ça que c'est le conseil que je vais répéter, c'est de ne pas hésiter, à sortir du cadre, de ne pas hésiter à dépasser un périmètre, une fonction qui peut-être nous est donnée, mais qui a de valeur que sur le papier ou sur la fiche de poste que l'on l'amène, et ne pas hésiter à le faire en testant le maximum de choses d'entreprise pour trouver à un moment quel est votre bon alignement entre ce que vous vivez à titre perso, ce que vous avez comme valeur et la façon dont vous pouvez le traiter et faire grandir des sujets plus ou moins grands, hein, chacun après avec son niveau d'ambition, mais au sein des entreprises. Et donc pour un jeune ou un moins jeune, comme tu disais, je pense que la fonction RH est une vraie chance parce que vous pouvez faire un métier avec beaucoup de passion au contact des collaboratrices et collaborateurs en permanence. Donc vous avez toujours un retour terrain immédiat. Et une fois que vous vous nourrissez là-dessus et si vous trouvez la bonne entreprise et les bons leviers, il y a énormément de matière en RH. Recrutement, mobilité, formation, paye, transformation des entreprises, communication, création de valeur et de culture. Enfin, vous pouvez toucher énormément de choses. Et donc, faut pas hésiter, en fait. Faut tester au maximum des choses et puis se permettre de proposer des choses régulières à des dirigeants. Les dirigeants, ils attendent d'être nourris par des idées, par des nouvelles solutions. Et vous verrez que peut-être que sur 10 propositions, il y en a 9 qui vont tomber à la poubelle, mais il y en a une qui va être retenue et qui va vous permettre d'être toujours passionné dans ce que vous allez faire. Donc, c'est ça le simple conseil que je pourrais donner. En tout cas, c'est celui qu'on m'a donné. Et une fois que je l'ai réussi à l'intégrer, je me l'applique au quotidien.
Donc, le fait de ne pas hésiter, de tenter, on va laisser en tout cas nos auditeurs et auditrices sur ce message inspirant. Je te remercie vraiment de t'être prêté au jeu du podcast Personnel et Confidentiel. Je vous donne rendez-vous toutes et tous pour le prochain épisode de votre podcast sur le site de l'association. Et je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup.